amis auditrices et auditeurs de Radio Sépharade. En l'absence de votre animatrice préférée, Martine Lasserie, c'est à moi qu'a échu le redoutable honneur non pas de la remplacer, car elle est irremplaçable, mais de vous faire patienter en attendant son retour. Alors je vais droit au but. Je me présente. Je m'appelle Soli Lévy. Je suis mon ancêtre, que vos communautés n'arrêtent pas de me sortir du Gan Eden où je réside depuis 5 siècles. Jamais on ne me laisse jouir d'un repos bien mérité. L'avantage, c'est que je suis aussi à l'aise dans votre siècle que je l'ai été de mon vivant. Je me réincarne tout le temps. Je n'arrête pas de me réincarner. Dans cet avatar de maintenant, que je connais en ce moment, je suis un juif séfarade canadien en vadrouille de par le monde. Alors, on m'a engagé pour venir vous parler, enfin, la direction de Radio Sépharade a su, d'après ma réputation transatlantique, que j'avais beaucoup d'expérience sur les questions que je vais vous entretenir d'eux. Oui, tournure un peu révolutionnaire, mais séduisante néanmoins. Et pour bien faire le tour du sujet, je vais vous prononcer une circonférence. Ce sera une analyse de l'évolution de la culture et de l'identité séfarade. Mais, avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer quelques personnalités qui, dès qu'elles ont appris que j'étais sur les ondes, se sont empressées, toutes en même temps, de brancher leurs ordinateurs sur Radio Sépharade. Ce sont des sommités du monde universitaire et financier. Le docteur Hantos Ben Awar, doyen de l'université Sépharade de Pontevedra, oui, ici en Espagne, chez vous. Monsieur Zevulun Levi Magdougal Halafta, de la fraternité des producteurs séfarades de jus de caroub et de paix de non de tofu. Mr. Tromba Bengerga, Vice President of Casabarata Corporation of Fabricants Séfarades de Turron d'Aubergine. Merci d'être ici, je suis sûr, je sens votre présence, je sens que vous m'écoutez religieusement. Professeur Niho Buchanu Buchanan, président du conseil d'administration, Chairman of the Board of the Departamento Cultural del Sephardic Garnina Institute de Despeñaperros City. Doña Aldonza Lorenzo Josmina, présidente du comité de la Kermesse de Bienfaisance au profit des écrevisses orphelines de l'île du Perejil. Madame Josmina Terfa, notre invitée du Parlement européen, présidente de la Fédération des consistoires séfarades de Transylvanie subcarpatique, et enfin, last but dans ma liste, pas mal celle-là, hein? Oui, je savais que vous apprécieriez, last but dans ma liste, le professeur Pancracio Hermenegildo Cohen, vice-recteur de la faculté de lettres de l'université juive de Riyad. Voilà. Alors, je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs sont absolument ravis d'être en si bonne compagnie. Les thèmes que je vais aborder, vous en connaissez quelques-uns, c'est vrai, mais mon point de vue à moi, il est nouveau. Il est typiquement nord-américain. Je m'excuse, mais vous, les Européens, vous avez encore beaucoup à apprendre de nous, les Canadiens. Je me promène souvent en France, c'est désolant, en France et ailleurs en Europe. Un symptôme de ce retard lamentable. Quel est votre taux de McDonald's au kilomètre carré? Vous savez pas, hein? Eh bien, je vous l'apprends. Il est encore à 0,03% en milieu urbain. Et c'est exactement notre taux canadien dans le cercle polaire. Conclusion, l'Europe est un pays sous-développé. Il était temps que je vinsse vous parler, au moins pour faire progresser les Juifs qui en ont peut-être plus besoin que les autres. Bon, alors je commence ma circonférence. Je crois que je vais commencer par quelque chose de facile, que même vous, les Européens, pouvez comprendre. Les synagogues nord-africaines en Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Un peu d'histoire, d'abord. Au commencement, et même auparavant du commencement, auparavant de notre immigration dans le Nouveau Monde, nous habitions dans des villes ou des petits villages où il y avait des dizaines de petites synagogues. C'était des synagoguettes de famille. Chacune appartenait à une famille. Le chef de la synagoguette, c'était le chef de la famille. C'était lui qui faisait et qui défaisait. C'était lui qui disait et qui se dédisait. C'était lui qui décidait qui c'est qui allait monter au séfer, qui c'est qui allait descendre, qui c'est qui allait lire, qui c'est qui allait chanter, etc. Les autres, ils n'avaient droit à rien. Aucun droit. Même pas participer aux offices. Même si, s'il y avait un jour, je ne sais pas moi, Caruso, ou bien Mario Ramsa le ténor, qui venait à la synagoguette, ou Nat King Cole, ou Yves Montand, eh bien, on ne leur donnait rien à chanter, rien. Ils n'avaient droit à rien. Ils venaient à la synagoguette, et à la fin de l'office, ils disaient Shabbat Shalom, et ils partaient. Et pourtant, mes chers amis, qu'est-ce que ça aurait été bien d'entendre un Lecha Dodi chanté par Caruso ou Mario Ramsa le ténor. Qu'est-ce que ça aurait été bien ? Lecha Dodi likrat kala pene shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala pene shabbat nekabela. Shabor vezachor bediburecha nishmianu. Ou alors un Lecha Dodi chanté par Nat King Cole, mes chers amis. Lecha Dodi likrat kala pene shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala pene shabbat nekabla. Migdash melech eir melucha kumi seimi tohafecha rabla shebet be'emek habacha vehu yachmol Halayichemla, vehu yachmol, halayichemla. Ou alors, mieux encore, un Lecha Dodi chanté par Yves Montand. Oui, ne croyez pas les mauvaises langues. Ne croyez surtout pas les mauvaises langues. Yves Montand était juif. Oui, j'ai vérifié. Il s'appelait Yves Olivi comme moi. Yves Olivi, Soli Lévi, voilà.
Ve'ayulim shissa shosayich ve'rachaku kol mevale hayich yashis halayich elokayich kim shos cheten al kala lecha dodi likrat kala pene shabbat nikabila lecha dodi likrat kala pene shabbat nikabila.
Eh ben non, c'est dommage, hein. On leur donnait absolument rien à chanter. C'est la famille du boss, du chef, qui chantait tout, même s'ils avaient des voix de pastèque écrasées. Mais maintenant, en Amérique, pour nous, c'est fini tout ça. D'abord, on n'a plus de synagogue. On a des congrégations. Yes, we have congregations, my friend. Chaque congrégation, elle a son rabbin. Question. Prenez note, prenez note. À quoi reconnaît-on un rabbin nord-africain au Canada ? Je vous entends ? Non. Mauvaise réponse. Non, pas toujours. J'ai tout de suite deviné. Vous avez tout faux. Moi, j'ai vu dans les rues de Montréal beaucoup de barbes qui se promenaient sans rabbin attaché après. Et vice-versa, j'ai vu beaucoup de rabbins sans barbe. Non, on reconnaît un rabbin nord-africain, dans les rues de Montréal par exemple, parce qu'il porte un casque de chantier, un casque de construction. Ça fait partie de sa panoplie réglementaire. C'est pour une assurance bonbon. C'est très efficace, surtout à Simchat Torah, pendant les bombardements de bonbons. La Teba ou Bina est une place très vulnérable, et comme c'est péché d'ouvrir à la synagogue, à Shabbat ou Yom Tov, un parapluie ou un parabonbon, alors voilà, chaque rabbin a ses artisans qui sont beaucoup et qui gueulent tout le temps, et ses adversaires qui sont peu nombreux, discrets et vénéneux jusqu'au fond des entrailles. Et il y en a qui ne sont ni artisans ni adversaires parce que, voyez-vous, parce qu'ils comprennent absolument rien. Absolument rien alors il s'en fiche éperdument, et parfois il danse avec les loups, c'est-à-dire avec ceux qui crient le plus fort. Et d'autres fois il danse avec les autres, avec les moutons, surtout quand il n'y a pas d'urgence. Hé, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça la démocratie. Les adversaires du rabbin sont divisés en deux bandes qui sont également ennemis l'une de l'autre. Ça, c'est ce que nous appelons l'harmonisation communautaire. Les uns disent que le rabbin est trop mou et qu'il lâche trop la corde. Il est trop relax, ce rabbin. C'est un rabbin relaxiste. Par exemple, il permet que dans les réceptions synagogales, la table des femmes ne soit qu'à 64 centimètres de celle des hommes au lieu de 78, comme ça doit être la loi. Non mais vous vous rendez compte, il lâche trop la corde, ce rabbin. Et les autres disent qu'il est trop dur, au contraire, il est trop dur, ce rabbin. C'est un rabbin dictature, et il tire trop sur cette corde, jusqu'à ce qu'il étouffe les traditionnalistes conservateurs parce qu'ils sont trop libéraux. Voilà. Il est tellement sévère que depuis qu'il a été nommé, la mini-jupe est interdite dans notre synagogue à Kippour. Oui, pour les femmes, aussi bien que pour les hommes. Faudrait quand même pas exagérer. Faut vivre avec son temps. On est en 2005 ou au Moyen-Âge ou au Moyen-Orient. Et il y a une troisième catégorie d'adversaires qui disent que, virgule, notez bien la virgule, elle est absolument essentielle, d'une importance cardinale. Alors, je reprends. Et il y a une troisième catégorie d'adversaires qui disent que, virgule, au lieu de donner ses shiurim, c'est-à-dire ses prêches ou ses sermons sur la philosophie juive, virgule, que c'est mieux, il vaudrait beaucoup mieux qu'il parlât de choses, accent circonflexe, il vaudrait beaucoup mieux qu'il parlât, ou qu'il parle, concordance des temps, oui, présent du conditionnel, présent du... D'accord. Alors, il vaudrait beaucoup mieux qu'il parle de choses plus tachlès, concrètes, comme par exemple, on va supposer qu'un vendredi soir, tu es attablé à ta table et tu manges du poisson à la sauce rouge marocaine. Et tout à coup, il y a une arête qui se coince dans le fond de ton grosier. Alors, qu'est-ce que tu fais ? C'est péché de la casser en deux ? C'est mieux en trois ? Shabbat, c'est mieux en trois ? Abraham, Isaac et Yaakov, non ? Ou alors, c'est mieux s'il n'y a pas... Pikuah nefesh, c'est-à-dire danger de mort immédiat, que tu gardes l'épine du poisson coincée dans le fond de ton grosier jusqu'à Moshé Shabbat. Vous voyez ? Ça, c'est un vrai problème dont il faut parler dans un sermon. Et pas ces histoires de démission, de la démission, le peuple juif est un peuple de démissionnaires, le sacrifice... Tout, c'est très bien, mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec l'épine du poisson ? Zatiz, deux questions. Point final.